Radio Okapi. Oh, Okapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h dans toute la partie est de la RDC. Voici les titres de ce journal. Les gouverneurs des provinces recommandent aux chefs de l'État de confier les fonds d'investissement aux provinces et d'engager un plan d'urgence en leur faveur. C'est sur cette note que le premier séminaire des gouverneurs et vice-gouverneurs a pris fin ce mercredi à Kinshasa. Les écoles de Kiwanja, à quelques 80 km au nord de Goma, dans le territoire de Rutshuru, sont restées fermées toute la journée de ce mercredi. Les élèves ont décidé de sécher les cours pour exprimer leur colère face au kidnapping récurrent des civils, mais aussi contre les sécurités dans cette cité. Et puis, ouverture ce mercredi à Kinshasa d'un atelier d'élaboration du parc national pour la jeunesse de la RDC. Objectif, faciliter l'échange entre les jeunes et les décideurs politiques en vue de trouver des solutions aux problèmes que connaissent des personnes de cette tranche d'âge. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La mise en train des gouverneurs des provinces du pays a pris fin ce mercredi 14 mai. Une première rencontre du chef de l'État avec les nouveaux exécutifs provinciaux qui s'est clôture par une série de recommandations à quelques institutions du pays, dont la présidence de la République et aux nouveaux gouverneurs. Les séminaristes recommandent aux chefs de l'État de confier les fonds d'investissement aux provinces et aussi d'engager un plan d'urgence de reconstruction en faveur des provinces compte tenu de l'état d'élèbrement très avancé des infrastructures avec une dotation globale de 3 à 4 milliards de dollars afin de propulser la croissance économique. Il est par ailleurs demandé au gouvernement de la République à venir d'organiser le plus tôt possible la conférence des gouverneurs, c'est-à-dire 2 mois après l'installation effective et la présentation des programmes des gouvernements provinciaux. Dans la province du Bas-Ouélé, les gouverneurs sortants et entrants ont procédé hier à la remise et reprise, ce qui ouvre la voie aux nouveaux élus de prendre les rênes du pouvoir dans cette entité située à 324 km au nord de Kisangani. Le vice-gouverneur entrant promet au nom de son titulaire en mission à Kinshasa que le nouvel exécutif du Bas-Ouélé ne fera pas table rase du passé. Jacques Moukonkolé.
Fidèle Teng Bouti, vice-gouverneur élu en compagnie de son titulaire Valentin Senga en mars dernier, compte recourir à l'expertise de certains membres de l'équipe sortante pour mener le Bas-Ouélé vers le développement. C'est ce qu'il a déclaré lors de la remise et reprise avec Armand Kassoumbou, gouverneur sortant. Celui-ci s'est félicité pour sa part d'avoir jeté les bases devant permettre à son successeur de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Le premier gouverneur élu de la province du Bas-Ouélé dit avoir arraché des partenaires. Certains projets, notamment le projet RED Plus, piloté par le PNUD, lequel est susceptible de contribuer énormément au développement de cette entité. Il a également évoqué l'exploitation par quelques entreprises minières de l'or et du diamant à partir du mois d'octobre prochain dans les territoires d'Ango et de Bambessa. Armand Kassoumbou n'a pas non plus escamoté le projet de réhabilitation de la RN25 reliant Bouta à Issiro. Ce axe long d'environ 500 km n'a été entretenu jusque-là que sur une distance de 31 km à partir de Bouta. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis, l'opposant politique Moïse Katumbi confirme son retour à Lubumbashi le lundi 20 mai prochain. Il appelle la population au calme et à se mobiliser dans la paix pour son accueil. Se confiant ce mercredi à Radio Okapi, l'ex-gouverneur du Katanga annonce par cette occasion venir pour participer à la reconstruction et au développement de la RDC. D'où cet appel qu'il lance à la population qui viendra l'accueillir, qu'elle soit toute habillée en blanc, symbole de la paix. On écoute Moïse Katumbi, joint au téléphone par Paulin Munanga.
J'étais parti par Lubumbashi et je vais retourner d'abord à Lubumbashi. Je viendrai consoler mes frères et sœurs et remercier mes frères et sœurs qui m'ont porté dans leurs prières. Et après, je ferai le tour de safari pour remercier la population congolaise et prêcher l'amour et la paix dans notre pays. Je lance le message de la paix, le message de la cohésion nationale, donc l'unité nationale. Le plus important pour nous, c'est le pays, c'est le Congo, notre patrimoine, parce que moi-même, je serai habillé tout en blanc, signe de la paix. J'invite aussi mes frères et sœurs qui viendront me voir s'ils peuvent aussi être habillés en blanc. Ceux qui n'ont pas la tenue blanche, ils pourront prendre un petit mouchoir blanc, donc en signe de paix. Je rentre là-bas, c'est pour le développement de notre pays et surtout pour l'avenir de tous les Congolais.
Le Front des centristes républicains, une plateforme politique se constitue en opposition républicaine. Pierre Honoré Ngoubé, l'un des candidats malheureux à l'élection présidentielle de décembre dernier et leader de cette formation politique, l'a annoncé ce mercredi au cours d'un point de presse à Kinshasa. Selon lui, c'est pour sortir la RDC du bourbier dans lequel les acteurs politiques l'ont enfoncé depuis plus d'un siècle. Il est au micro de Paul Matendo.
L'opposition républicaine est légitime. Elle est une opposition dont les actions sont républicaines, c'est-à-dire en faveur de la population. Le président de la République, les assemblées nationales et provinciales, les gouvernements de la République et les gouvernements provinciaux sont dans le viseur de l'opposition républicaine légitime. C'est sur base du thème central du discours d'investiture du président de la République ainsi que des priorités définies dans son discours programme que l'opposition républicaine légitime que nous avons le privilège de diriger va les juger et concentrer son action et ses stratégies destinées à pousser la RDC de l'avant. Si l'actuel président de la République parvient à réaliser cette vision, le peuple le soutiendra. Personne ne réussira à le déboulonner. Mais s'il ne réussit pas à réaliser ses promesses ou son projet, il se déboulonnera lui-même.
Échange politique hier à Goma entre les acteurs politiques du Nord Kivu, toutes tendances confondues, et la section des affaires politiques de la MONUSCO. Le but était d'échanger sur la nouvelle résolution de la MONUSCO, la 2463, adoptée fin mars dernier et qui consacre l'actuel mandat de la mission. Les échanges qui ont suivi l'exposé présenté par le chef de bureau ad interim de la MONUSCO Goma, Julius Fondong, ont essentiellement tourné autour du contexte sociopolitique et sécuritaire du moment au Nord Kivu. Ici, Madame Naïma Kaibira du parti ARC au Nord Kivu revient sur ce qu'elle a retenu de cette rencontre. Elle est au micro de notre confrère Kylin Baloumé.
Nous sommes venus pour échanger un peu sur la question d'actualité, sur la question politique et parler aussi de leur nouveau mandat, la résolution 2463. Vous savez que nous sommes des partenaires avec la MONUSCO. Et là, nous sommes en train d'échanger sur la question sécuritaire et la question politique aussi, mais aussi la question de la santé. Il y a ce que la MONUSCO a réussi à faire et il y a ce que la MONUSCO a échoué. Et c'est pourquoi ils ont toujours besoin qu'on en discute. Donc, la MONUSCO a déjà fait quelque chose ou mettre des efforts pour qu'il y ait la stabilité dans notre pays.
Et notons que l'actuel mandat de la MONUSCO, qui est de 9 mois, prend fin en décembre prochain. Je le disais au sommaire, les écoles de Kiwanja, à quelques 80 km au nord de Goma, dans le territoire de Rutshuru, sont restées fermées toute la journée de ce mercredi. Les élèves ont décidé de sécher les cours pour exprimer leur colère face au kidnapping récurrent des civils dans la cité, mais aussi contre l'insécurité de façon générale. Des détails avec Jean-Didier Ogobani.
Selon des sources locales, les élèves des différentes écoles de Kiwanja ont décrété une journée sans école pour manifester leur colère contre l'assassinat mardi d'un parent d'élève par des hommes armés non encore identifiés. D'après le président de la jeunesse de Rutshuru, Roger Sebihira, ces hommes auraient tenté d'enlever la victime. Face à sa résistance, ils l'ont abattu et ont disparu dans la nature. La population en colère est sortie pour manifester contre cet assassinat. Elle a déposé le corps devant le bureau du territoire de Rutshuru. La même source indique que la police a dû user des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. La police a par la suite récupéré le corps et l'a placé à la morgue. Roger Sebihira se dit préoccupé par la recrudescence de l'insécurité à Kiwanja due au phénomène kidnapping. Il appelle les autorités provinciales et nationales à trouver une solution à ce problème. Pour sa part, l'administrateur du territoire, Justin Moukagnac, affirme que le travail est en train d'être fait tant au niveau de l'armée que de la police pour trouver la solution à ce problème de kidnapping pour que la population retrouve sa quiétude.
Autre manifestation contre l'insécurité ce mercredi, c'est celle des opérateurs économiques de la ville de Kalemie, en province de Tanganyika. C'est pour protester contre le braquage de certains commerces la nuit dernière dans le centre-ville. Entre 1h et 2h du matin, heure locale, ce mercredi, des hommes armés ont tiré plusieurs coups de feu et dévalisé des boutiques. Le comité de la Fédération des entreprises du Congo est allé exprimer sa préoccupation auprès de plusieurs responsables des services étatiques, mais également à la MONUSCO. Ce comité a même adressé une correspondance au maire de la ville, dans laquelle il demande à ce dernier de trouver une solution. Notez que hier, des élus du Tanganyika qui siègent au Parlement à Kinshasa ont appelé le chef de l'État à se pencher sur l'insécurité grandissante dans leur province. Ouverture ce mercredi à Kinshasa d'un atelier d'élaboration du pacte national pour la jeunesse de la RDC. Objectif, faciliter l'échange entre les jeunes et les décideurs politiques en vue de trouver des solutions aux problèmes que connaissent les personnes de cette tranche d'âge. Cet atelier est organisé par le ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et l'OIF en partenariat avec le Centre de Documentation de l'Enseignement Supérieur, Universitaire et de la Recherche à Kinshasa. Un reportage de Rachel Kessy.
Tout en rappelant que le pacte national en faveur de la jeunesse est une initiative de l'OIF, la représentante du directeur en charge de l'éducation de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie estime que la jeunesse reste un atout majeur dans l'édification de nations émergentes. Gisèle Meunier.
Cette initiative vise à créer un consensus national en faveur des jeunes. C'est un outil au service du dialogue sur les priorités de la jeunesse.
Pour Lisanga Bonganga, ministre d'État assurant l'intérim du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, ce pacte vise à faciliter le dialogue entre tous les acteurs politiques d'un pays pour qu'ils comprennent les enjeux et défis auxquels sont confrontés les jeunes.
Notre pays s'est engagé dans un processus pour offrir à sa jeunesse un cadre d'épanouissement propice.
Satisfait de cet atelier, Jean-Michel Ditonga, encadreur de jeunes scouts, encourage le gouvernement à la prise en charge de la jeunesse.
Il y a des problèmes liés à la prise en charge de l'État en matière de la jeunesse. Si nous disons la jeunesse est l'avenir de la République démocratique du Congo, s'il n'y a pas une conscience au niveau de notre instrument gouvernemental, demain nous aurons un Congo qui ne sera pas fort.
Ces assises se clôturent ce jeudi 16 mai.
L'agriculture telle que pratiquée dans le nord Ubangi connaît bien des difficultés pour assurer la sécurité alimentaire de toute la population. Malgré l'intervention des partenaires d'appui, cette province doit recourir aux vivres d'ailleurs, notamment en vue de faire face à l'accroissement démographique causé par l'afflux des réfugiés centrafricains. Cette situation explique l'état des lieux que vient de lancer le Service national de vulgarisation SNV à travers la province. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Le premier constat fait par le coordonnateur du Service national de vulgarisation Nord-Ubangi, c'est l'ignorance de cette structure par la population, un service étatique qui apporte pourtant une amélioration significative de la production agricole, a affirmé l'ingénieur Yvon Kassai. Ensuite, il a relevé que la vulgarisation qui s'est faite jusque-là a été menée de façon sectorielle. Elle dépend des objectifs de chacun des intervenants. Troisième constat, il dit avoir noté que la plupart des ménages agricoles du Nord Ubangi ne sont pas encadrés actuellement. Cet état des lieux sera complété par d'autres éléments lors de la descente sur terrain jusqu'au niveau des secteurs. Toutefois, a ajouté Yvon Kassai, l'équilibre alimentaire constaté actuellement au Nord Ubangi n'est que fonction de l'importation des vivres par des organisations humanitaires. Comme thérapie de choc, le SNV compte lancer une grande campagne de vulgarisation agricole dans la province, mais aussi l'encadrement de producteurs locaux par des techniques culturales et des semences améliorées, ce qui vise à long terme une production agricole et une sécurité alimentaire durable dans le cadre du fonds additionnel du PARSA au Nord Ubangi à renchérir notre source. Bandaka, Paul-Richard Malengela, Radio Okapi.
Et fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir.